Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de l'écho à contre-courant où nous allons parler de croissance verte. Alors on écoutait certains, beaucoup même aujourd'hui, c'est le nouvel horizon du capitalisme contemporain, cette croissance verte, une transition écologique qui amènerait des investissements nouveaux dans les technologies dont a besoin cette transition, et donc on aurait de nouvelles techniques, de nouveaux investissements et de nouveaux emplois qui permettraient de redonner de la vigueur à un capitalisme qui jusqu'ici en manquait singulièrement. Alors du Green New Deal à gauche jusqu'au plan de relance français présenté à l'automne dernier à droite, tous les dirigeants d'une certaine façon prétendent faire cette croissance verte. Et nous allons voir avec notre invité aujourd'hui que bien loin d'être une solution, cette croissance verte pourrait bien être une illusion. Pour ça, donc, nous recevons Hélène Torgemann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc économiste à l'université Paris-Nord. Et vous publiez aux éditions La Découverte donc ce livre, La croissance verte contre la nature, qui vient de sortir. C'est une critique de l'écologie marchande. Et effectivement, la position que vous défendez dans ce livre, c'est de dire que finalement, cette croissance verte qu'on nous vend politiquement aujourd'hui, de façon un peu générale, que ce soit à droite, à gauche, au centre, partout, eh bien, c'est une sorte de fuite en avant du capitalisme contemporain.
Oui, absolument. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. C'est qu'on utilise les moyens du capitalisme pour lutter contre les méfaits du capitalisme. Et donc, on utilise en gros le marché comme outil de coordination sociale et l'innovation comme réponse à différents problèmes pour répondre aux défis écologiques, alors même que c'est le marché et la technique qui nous ont mis en quelque sorte dans cette situation-là. Et donc je montre que c'est un paradoxe et que, j'essaye de montrer que c'est un paradoxe et que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc je voudrais juste donner deux ou trois exemples de la fuite en avant qui caractérise nos sociétés. Par exemple, j'ai travaillé sur les agrocarburants. Les agrocarburants, on en est déjà à la troisième génération, en même pas 20 ans. Première génération, ça a créé un certain nombre de problèmes. Donc, on a créé une deuxième génération qui a à nouveau créé des problèmes. Donc, on en est à la troisième génération qui ne manquera sans doute pas de créer encore d'autres problèmes, etc., dans un processus un peu sans fin. Autre exemple, on a une multiplication des ondes électromagnétiques qui posent des problèmes de santé à un certain nombre de gens qui sont électrosensibles. On a inventé des peintures à base de nanoparticules pour bloquer les ondes électromagnétiques. Mais on sait par ailleurs que les nanoparticules sont plus fines que des particules fines contre lesquelles on lutte déjà et vont probler vraisemblablement des problèmes de santé. Et qu'il faudra donc trouver encore une autre solution qui viendra répondre au problème des nanoparticules. Et ce genre de dynamique-là auto-renforçante, on la trouve absolument partout dans des tas de domaines et d'activités. Et il me semble que c'est un des traits fondamentaux du capitalisme contemporain qui s'apparente effectivement à une fuite en avant technique.
Ça veut dire qu'en fait, pour reprendre par exemple l'exemple des agrocarburants, on n'a pas à chaque nouvelle génération une amélioration absolue d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'a pas une nouvelle génération qui effectivement serait plus favorable à l'environnement de façon absolue. En fait, à chaque fois, on a des solutions qui posent de nouveaux problèmes et qui exigent de nouvelles solutions, ce qui crée la croissance, mais qui en même temps ne règle aucun problème en termes environnementaux.
C'est ça. Ouais. Par exemple, les premiers agrocarburants étaient critiqués à juste titre parce que on utilisait des cultures vivrières. Donc la question, c'est de savoir s'il faut manger ou conduire, parce qu'on peut pas utiliser les terres pour tout. Et du coup, on a mis au point des agrocarburants avancés, dits avancés, qui étaient censés répondre à la question des terres. Et en fait, on a besoin de biomasse tout autant. Donc ça va plus être des cultures vivrières comme du blé ou du maïs éventuellement, mais ça va être des arbres à croissance rapide, des herbes dédiées. Et le résultat, c'est quand même un besoin de terre qui est toujours important. Donc on va sophistiquer
avec
à chaque fois.
Avec des effets sur la déforestation, la biodiversité, qui sont
catastrophiques. Oui, tout à fait. Et donc on va sophistiquer à chaque fois qu'on a un problème, on sophistique. Et donc, on a des techniques de plus en plus puissantes, complexes, sophistiquées. Mais le problème est toujours là, puisqu'on n'agit pas sur la cause, simplement sur les effets, en aval.
Vous montrez, notamment dans la première partie du livre, l'importance de toutes les nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, etc., justement dans cette sophistication, mais pas du tout en fait, dans le règlement du problème environnemental. C'est comme si en fait, ces technologies étaient centrées non pas sur le règlement du problème environnemental, mais en fait sur la production de profit dans un cadre de crise écologique, en quelque sorte.
Oui, ce sont des techniques donc, qu'on appelle NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences de la cognition, qui ont un peu convergé et qui ont, en tout cas, de multiples fertilisations croisées qui donnent naissance aujourd'hui à peu près à toutes les techniques sur lesquelles porte la concurrence internationale, sont des techniques issues de la convergence NBIC, que ce soit le cloud computing, l'informatique quantique, la biologie de synthèse, toutes ces techniques hyper modernes et hyper puissantes et de plus en plus intrusives dans les corps humains et dans la nature, sont utilisées en fait pour la croissance économique, toujours, avec un vernis vert, mais qui n'est, à mon sens, qu'un vernis.
Qu'un vernis, parce qu'en fait, ces techniques-là, justement, ne sont pas, en fait, conçues pour régler la crise écologique, mais bien pour régler la crise du capitalisme au sein de la crise écologique, d'une certaine façon.
Mais alors, il y en a qui pensent que ça va créer, que ça va régler la crise écologique. Par exemple, aujourd'hui, on est en train d'accepter les nouveaux OGM qui avaient pourtant été bloqués par la Commission européenne, par la Cour de justice des Commissions européennes il y a 2 ans. Et on est en train de les accepter, qui sont donc des OGM puissance 10, sous le prétexte que ça va nous permettre de créer des variétés végétales qui résisteront à la sécheresse, par exemple, donc au changement climatique. Donc c'est présenté comme ça, mais en fait, c'est pas ce qu'on fait avec.
D'ailleurs, un des éléments que vous mettez en avant, c'est de dire que toujours, notamment dans le domaine de l'agriculture, hein, toujours ces nouvelles technologies sont présentées comme des instruments de lutte contre la faim, de lutte contre les privations alimentaires, les choses comme ça. Et en fait, vous montrez qu'en réalité, la lutte contre la faim n'est pas du tout la première utilisation de ces techniques, mais que c'est bien l'industrie agroalimentaire ou au contraire l'industrie ou même l'industrie de l'énergie qui utilise ces techniques-là.
Oui, tout à fait. Si on voulait résoudre le problème de la faim, c'est pas grâce aux OGM qu'on le ferait. 99% des OGM cultivés aujourd'hui sont des OGM de plantes industrielles, c'est-à-dire qui ne servent pas à nourrir les gens. 99%. Donc c'est difficile de nous faire croire que les OGM viennent répondre à la question de la faim. La question de l'alimentation au niveau mondial, c'est un problème d'affectation des terres et pas une question de variété OGM ou non.
Alors, un des aspects aussi très intéressants de ce livre, et c'est pas le seul parce que le livre est très dense, malheureusement on peut pas parler de tous ces aspects. Un des aspects qui m'a moi beaucoup intéressé concerne la marchandisation de la nature. Vous y consacrez plusieurs chapitres, et c'est assez intéressant de voir que cette marchandisation, donc qui est un préalable finalement à la croissance verte, hein, il faut en fait faire en sorte que bien la nature puisse être une marchandise pour pouvoir être comptée. On voit un parallèle assez frappant finalement avec le processus de marchandisation du travail que décrivent qu'ont décrit Marx et Polanyi précédemment, hein, avec notamment le fait qu'on a des nouvelles enclosures, ce que vous appelez les nouvelles enclosures, le fait que qu'on a une nature qui est abstraite en fait de sa réalité pour pouvoir être comptabilisée, et puis le fait qu'on a une expropriation d'une certaine façon des produits de la nature au profit de certains dans le processus de production. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu justement ce processus de marchandisation et nous dire finalement quelles en sont les conséquences ultimes ?
Eh bien, prenons le cas des semences, qui est un cas que je développe assez en longueur dans le livre. Donc les semences sont des variétés végétales c'est-à-dire les plantes cultivées, qui, jusqu'au début du XXe siècle, circulaient tout à fait librement. Et petit à petit, on a créé des droits de propriété intellectuelle sur les semences. Pour créer des droits de propriété intellectuelle, il a fallu définir la semence comme une marchandise, qu'on puisse compter, comparer, rendre fongible, mesurer de toute une série de caractéristiques. Et puis, avec le développement de la génétique, on a fini par décrire les variétés végétales, comme les races animales d'ailleurs, simplement par leur information génétique. Donc aujourd'hui, un animal ou un végétal, c'est de l'information génétique. Et l'information génétique est assez facile à faire entrer dans le marché via les brevets, via la propriété intellectuelle. Donc ce qu'on observe quand on étudie ce genre de cas, c'est qu'on voit tout un travail en amont de mise en forme, de création de la marchandise, de définition de la marchandise, avant même qu'on puisse définir les droits de propriété dessus. Parce que pour que la propriété soit clairement définie, il faut que l'objet soit clairement défini, comptable, mesurable, comparable, fongible, etc. Et donc, on a vraiment un processus institutionnel qui s'attaque comme ça à ces nouvelles dimensions de la nature pour les faire rentrer dans le marché avec l'idée que le mécanisme de marché permettra de protéger la nature. Puisque l'idée, qui est assez simpliste, me semble-t-il, c'est que si on détruit la nature, c'est parce qu'elle n'aurait pas de prix. Et donc, les agents ne sont pas conscients de leur valeur. Donc, il faut lui donner un prix. Pour lui donner un prix, on la comptabilise, on la rationalise, on lui donne un prix sous forme de services écosystémiques, et ensuite, on crée des dispositifs marchands qui vont permettre de mesurer et de valoriser, par exemple, la capacité d'absorption de carbone d'une forêt. Et donc, la forêt va être vue plus que comme un puits de carbone ou un stock de biomasse. Donc, on en arrive pour transformer en marchandise ces objets qui n'ont aucune caractéristique de marchandise initialement, que ce soit les semences ou les forêts, on va monter en abstraction pour pouvoir les compter. Parce qu'on ne peut pas compter chaque feuille de la forêt, c'est pas possible comme ça. Donc on a une espèce de montée en abstraction. Les plantes et les animaux deviennent juste de l'information génétique. Les forêts deviennent des stocks de biomasse complètement indifférenciés, des puits de carbone. Et on a une espèce de dématérialisation, de désincarnation de la nature qui, à mon sens, est assez grave ou ne fait que poursuivre le problème puisque ce qui nous manque, justement, c'est un sentiment de proximité avec la nature. Et là, au contraire, ça nous donne, ça nous éloigne encore.
Finalement, cette simplification, et là encore, le parallèle avec le travail est assez parlant, cette simplification, cette abstraction de la nature permet, contrairement à cette démarche de dire à partir du moment où on a un prix, on va respecter ce qui a un prix, en fait, cette simplification permet une destruction en fait, de la nature au nom même de sa propre sauvegarde, d'une certaine façon.
C'est le risque. C'est pas encore, pour l'instant, on n'est pas encore... Donc ça, on parle plutôt de ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui sont des manières de valoriser les services que la nature rend aux êtres humains. Donc déjà, c'est quand même assez anthropocentrique et utilitariste comme vision, mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, on n'a pas vu que ça menait à la destruction directement de la nature. Par contre, ça n'empêche absolument pas les destructions. C'est-à-dire que c'est ça ou rien, ça serait pareil, à part qu'il y a des gens qui arrivent à faire du profit grâce à ces instruments-là.
Donc, mais concrètement, lorsque l'on considère qu'une forêt, c'est juste un stock de biomasse ou... un producteur d'oxygène, c'est toute sa complexité qu'on oublie, et notamment les questions de biodiversité, les questions d'équilibre au sein même de cette forêt entre les différentes espèces, les différentes parties de la forêt, le lien de cette forêt avec le reste des écosystèmes de la Terre. Tout ça est en fait complètement nié d'une certaine façon.
Complètement. On voit pas les écosystèmes et leur richesse, on voit que la capacité des plantes à absorber du carbone. Donc, à la limite, une plantation de peupliers ou d'eucalyptus, donc des arbres à croissance rapide, c'est aussi bien qu'une forêt primaire, puisque c'est même mieux, puisque ça pousse plus vite et ça absorbe autant de carbone.
En fait, ce que vous dites, c'est que la nature ne fonctionne pas comme ça.
Bah non.
Voilà. Pour être très simple.
Pour être très simple.
Et donc, d'où le titre, hein, la croissance verte contre la nature, d'une certaine façon, puisque la croissance verte est une sorte de caricature de la nature.
C'est une perspective hyper réductionniste sur le vivant. Donc on pense qu'on va tout, qu'on peut comprendre vraiment tous les enchaînements, les analyser, les décortiquer pour les reproduire ensuite et les maîtriser et les contrôler. Or, on ne peut pas maîtriser et contrôler l'infinité des interactions naturelles dans un écosystème. Donc quand on autorise l'être humain à exploiter certains aspects de l'écosystème, évidemment, il va avoir un impact, et cet impact va avoir des effets en chaîne sur l'ensemble de l'écosystème. Si on prend en compte qu'une seule dimension de l'écosystème, par exemple la séquestration de carbone, on ne va pas voir tous ces déséquilibres-là.
Une des conséquences de cette marchandisation de la nature, c'est le développement de la finance verte. Alors récemment, notre président de la République, Emmanuel Macron, a publié une vidéo à la gloire de la finance verte en disant finalement la finance, c'est le nerf de la guerre, la guerre étant la guerre contre le changement climatique. En quoi la finance verte pour vous, et je vais vous citer là-dessus, vous dites à la fin de votre chapitre sur la finance verte, hein, dans l'architecture actuelle, la finance verte est vouée à l'échec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et pourquoi elle n'est pas ce nerf de la guerre justement que prétend défendre notre président de la République.
La structure des marchés financiers depuis 30 ou 40 ans, je pense que ça n'a échappé à personne, est fondamentalement instable. On va de crise financière en crise financière. La spéculation domine très largement le fonctionnement de la finance, c'est-à-dire une vision très très court-termiste, où on est incapable de se projeter à même un an ou deux ans. Le temps moyen de détention des actions aujourd'hui, c'est quelques secondes avec le trading à haute fréquence. Donc ça ne permet pas d'avoir une vision de long terme et qui soit adaptée aux besoins sociaux. D'ailleurs, si la finance s'intéressait aux besoins sociaux, je pense que ça se saurait. On ne l'a pas vraiment remarqué ces dernières années. Et donc, dans ces structures-là, effectivement, je ne vois pas comment la finance peut être verte. Alors, admettons qu'on ait tiré les leçons de la crise de 2007-2008 et qu'on ait vraiment complètement réformé la structure financière internationale pour limiter drastiquement les mouvements de capitaux et la spéculation, donc pour permettre de retrouver un peu de long terme de la part des investisseurs. Là, on pourrait peut-être imaginer que la finance pourrait aider à financer les activités qui permettrait la transition écologique. Mais, pour l'instant, qu'est-ce que c'est que la finance verte ? C'est une finance qui va aller canaliser des activités jugées vertes. Comment ces activités sont jugées vertes ? À travers des labels, mais qui sont... Donc, je suis rentrée un peu dans le détail des labels pour voir. Ces labels sont tellement généraux et tellement peu exigeants que presque n'importe quelle activité, enfin quand même pas n'importe quelle activité, pas le charbon par exemple, mais un grand nombre d'activités vont être jugées vertes alors même qu'elles ne le sont pas du tout, parce que ces labels ne prennent pas en compte ni les choix technologiques, pour eux les techniques sont neutres, ce qui est un des lieux communs sur la technologie qu'on entend souvent, les techniques sont neutres et ils n'analysent pas non plus le cycle de vie des produits dans les projets qu'ils vont financer. Un exemple, la rénovation thermique des bâtiments, ça peut être assez efficace, ça peut permettre de limiter la consommation d'énergie, donc les émissions de gaz à effet de serre. Simplement, si c'est fait à partir de polystyrène, c'est ce qu'on fait d'ailleurs souvent aujourd'hui, polystyrène, il faut presque 3 tonnes de pétrole pour produire une tonne de polystyrène. Donc si on fait de la rénovation thermique à base de polystyrène, on n'a rien fait. Et tous les labels se contentent de dire si c'est de la rénovation thermique des bâtiments, c'est bon. Et ils ne vont pas plus loin dans les détails. Donc, en fait, on peut faire
encore
passer...
Encore une fois, c'est ce réductionnisme, ouais. cette vision très univoque qui pose problème.
On peut faire passer n'importe quoi. Ouais. Et donc, on en arrive même à promouvoir des techniques qui sont comme de la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, il s'agit de les êtres humains d'aujourd'hui, dans notre société hyper technologique, ont une vision assez prométhéenne de penser qu'ils vont pouvoir contrôler les grands cycles biogéochimiques de la Terre. On a mis la biosphère en l'air en quelque sorte avec tous les déséquilibres, particulièrement les gaz à effet de serre, mais pas que, depuis un siècle ou deux. Et la géo-ingénierie, comme son nom l'indique, vise à avoir une démarche d'ingénieur vis-à-vis de ces grands cycles biogéochimiques de la Terre. Par exemple, on va fertiliser les océans, enfin, on ne l'a pas fait encore, sauf à toute petite échelle, on a fait des essais, mais il y a des projets de déverser de l'urée et du fer en masse dans les océans pour accroître la quantité de phytoplancton, de minuscules petites algues, qui absorbent beaucoup de carbone, pour augmenter les capacités de séquestration du carbone des océans. Qu'est-ce que ça va faire dans les océans, une prolifération de micro-algues ? C'est un truc d'apprenti sorcier, on ne peut pas du tout savoir ce qui va se passer. Et donc on arrive avec des solutions de plus en plus technologiques, puissantes, prométhéennes, pour résoudre les problèmes que cette même attitude prométhéenne a créés. Donc on n'a pas compris, quelque part me semble-t-il, où était vraiment le problème dans notre mode de développement, dans notre mode de production et de consommation.
Alors précisément, on va parler un petit peu de ça, de savoir, finalement, à la lecture de votre livre, on se dit, est-ce que le capitalisme et la préservation de la nature sont compatibles ? C'est une question qui est aujourd'hui, qui agite quand même beaucoup de discussions. On a reçu Frédéric Lordon il y a quelques semaines ici, qui nous disait, finalement, c'est le capitalisme qui, justement, provoque cette destruction de la nature, et donc pour stopper cette destruction, il faut sortir du capitalisme. Est-ce que pour vous, il y a une incompatibilité ? On a bien compris qu'il y avait une incompatibilité entre le mode actuel de production du capitalisme dans sa version financiarisée néolibérale et la préservation de la nature. Est-ce que pour vous, il y a une forme d'incompatibilité entre le capitalisme, la croissance et la préservation de la nature ?
Clairement, tous les dégâts environnementaux ont commencé avec les révolutions industrielles il y a deux siècles, et ça n'a fait que s'accentuer depuis. Donc on voit vraiment cette fameuse ère de l'anthropocène, qu'il faudrait mieux d'ailleurs appeler capitalocène, date d'environ deux siècles, et depuis deux siècles, toutes les variables que l'on suit sont sur des trajectoires presque exponentielles. Donc, je sais que corrélation n'est pas causalité, mais enfin, quand même, il semblerait que ça soit le
capitalisme. En même temps, le lien de causalité, c'est bien ce progrès technique mis au service de la production de profit qui permet, d'une certaine façon, au capitalisme de fonctionner, selon le phénomène qu'on connaît bien et qui avait été décrit notamment par Joseph Schumpeter, mais qui, en même temps, à chaque fois, s'accompagne, d'une certaine façon, d'une destruction des écosystèmes et de la nature de façon générale ?
Mais parce que c'est l'ampleur de la production matérielle. On croule sous les biens, au nord, pas au sud évidemment, mais dans les pays du nord occidentaux, on croule sous les biens de toutes sortes, et tous ces biens, ils tombent pas du ciel, il faut les produire, donc on a besoin de matières premières, on a besoin d'énergie, et on consomme énormément des deux, trop. Donc la seule solution, c'est de réduire, pour réduire l'empreinte écologique de nos sociétés, c'est de réduire la production, d'une part, et effectivement, alors après, évidemment, j'ai pas de recette, malheureusement, pour sortir du capitalisme, c'est de sortir de cette course folle, et cette course folle, elle est induite par le capitalisme, qui est un système qui ne peut fonctionner que dans la croissance perpétuelle, toujours à la recherche de nouveaux domaines de valorisation du capital, comme on le voit avec la nature, par exemple. Donc c'est ça qu'il faut stopper.
Et d'une certaine façon, la nature est la dernière frontière du capitalisme, après aujourd'hui, avoir finalement marchandisé tout jusqu'à l'être humain lui-même. Ce que vous décrivez comme la croissance verte, finalement, c'est cette dernière frontière du capitalisme.
Oui, c'est des nouvelles marchandises issues de la nature. Mais là où c'est encore plus pervers, c'est que ces nouvelles marchandises sont souvent définies dans un but de protection de la nature, ce qui est assez pervers comme raisonnement, puisque c'est pas en transformant la nature en un ensemble, un catalogue de services écosystémiques, que, à mon avis, on va la protéger, quoi.
Alors on va terminer un peu sur les alternatives. On a un peu commencé à en discuter, mais sur les alternatives à cette croissance verte, puisque la croissance verte étant présentée comme une solution à la transition aux problèmes écologiques, on voit que ça n'est pas le cas. Alors on a finalement le sentiment que si on rejette cette croissance verte, on a le choix entre deux extrêmes. C'était là encore Emmanuel Macron qui nous disait, c'est le retour à la lampe à huile, donc le retour en arrière, le retour à la préhistoire, ou au contraire, l'idée qui est présente chez les collapsologues que il est trop tard de toute façon et que la seule solution c'est le sauvetage individuel d'une certaine façon. Et vous, à la fin, en conclusion de votre livre, finalement vous dessinez une nouvelle, vous sortez de cette alternative là et vous dessinez finalement quelques idées pour dépasser ces idées un peu caricaturales et trouver des moyens de sortir de la croissance verte sans en passer par ces deux extrêmes.
Oui, alors je prends le cas de l'agriculture parce que c'est un cas sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans le livre, et puis parce que on sait aussi en gros ce qu'il faudrait faire au niveau agricole, enfin au niveau des systèmes alimentaires mondiaux. Ça fait quand même environ 20 ans que les rapporteurs du droit à l'alimentation à l'ONU disent tous la même chose. Il faut sortir de l'agriculture industrielle et promouvoir l'agroécologie. L'agroécologie, c'est pas qu'un ensemble de pratiques culturales, c'est toute une organisation sociale des territoires, avec des modes de culture évidemment, mais aussi l'organisation sociale qui va avec, à petite échelle, avec des petites parcelles, sans chimie, sans mécanisation ou avec très peu de mécanisation, en tirant parti des interactions écosystémiques d'une manière respectueuse et douce, qui permet d'avoir des rendements tout à fait conséquents, puisqu'à chaque fois ce qui nous est avancé quand on dit ça, c'est mais on pourra jamais nourrir la planète avec l'agriculture biologique. Si, on peut. En fait, on peut. C'est un problème d'affectation des terres. Aujourd'hui, l'agriculture industrielle préempte 3/4 des terres cultivées pour ne produire que 1/4 de la nourriture consommée dans le monde, alors que l'agriculture paysanne, ou ce qu'on appelle maintenant l'agroécologie, produit 3/4 de la nourriture consommée dans le monde sur seulement 1/4 des terres cultivées. Donc, c'est pas une question d'avoir des nouveaux OGM encore plus puissants qui augmenteraient les rendements, etc. Parce que c'est pas un problème de rendement, c'est un problème d'affectation des terres. On prendrait les terres à l'agriculture industrielle, on le redistribuerait aux petits paysans, au sud, mais aussi au nord, et on pourrait nourrir les populations. Alors, ça paraît un peu simpliste dit comme ça, j'ai essayé d'aller un peu plus dans les détails, là j'ai pas trop le temps de développer, mais j'ai essayé justement en me disant que peut-être, vu qu'en agriculture et dans les systèmes alimentaires, on sait un peu quand même vers où il faudrait aller, ça pourrait être un premier pas qui nous donnerait ensuite des idées ou une base pour modifier les autres activités aussi, sur lesquelles j'ai malheureusement...
Ça veut dire finalement produire moins, ce qu'on disait précédemment, produire sans ce coup de fouet de la nécessité de la croissance permanente, mais finalement mieux s'organiser. C'est organiser autrement la production pour pouvoir produire de façon plus efficace, pour le coup, mais au sens efficace, non pas monétairement, mais pour le bien-être de la collectivité.
Oui, pour avoir une production qui répond aux besoins. Aujourd'hui, les agrocarburants, typiquement, ça permet pas de nourrir la population. Et on a de plus en plus maintenant, avec cette idée justement dans la croissance verte, ce qu'on appelle la bioéconomie, c'est qu'on va remplacer toutes les productions qui étaient faites à base de pétrole, les remplacer par la biomasse. Ça veut dire un besoin de biomasse absolument phénoménal, et donc on va raser toutes les forêts, toutes les terres cultivées vont servir à faire du plastique ou des produits chimiques. C'est, encore une fois, c'est absurde. Donc, l'agriculture paysanne telle qu'elle existe aujourd'hui dans les pays du Sud, et dans certains interstices aussi dans les pays du Nord, permet de nourrir les populations, permet une harmonie de la vie des gens avec leur territoire, permet une organisation en circuit court qui permet donc que les besoins directs des populations soient satisfaits et qu'on ne produise pas pour faire des choses qui nous servent à rien. Et donc il y a vraiment, et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises depuis quelques années, il y a beaucoup d'essais partout, dans tous les pays, au nord comme au sud, d'expérimentations très concluantes. Et il me semble que c'est vraiment vers là qu'il faudrait aller, plutôt que d'aller pleurer tout seul sur son île déserte ou dans un bunker protégé. Moi, je suis plutôt pour la résistance, quoi. Voilà, je me dis que Bien sûr, des fois, j'ai aussi la tentation de l'île déserte, comme tout le monde, en me disant le monde est trop affreux, fuyons. Mais je ne peux pas. Donc, je me dis qu'il y a quand même des choses à faire.
Et donc, on terminera sur cette note positive de résistance. Donc, je vous conseille la lecture de « La croissance verte contre la nature » d'Hélène Torjman. Livre très dense. On a évoqué qu'une petite partie de ce livre, mais je vous en conseille donc la lecture. Et je vous dis à bientôt pour une autre émission de l'Écho à contre-courant.